Merci pour cet accueil chaleureux. Oui, effectivement, j'étais ici dans la région jusqu'à ma retraite il y a un an. Et là, je suis retourné dans la région de Zurich, dans mon village d'origine, à une vingtaine de kilomètres de Zurich. Et je commence à prendre un peu racine là-bas, mais ça me réjouit énormément de vous retrouver ici. Un peu le programme de ce que j'ai préparé. D'abord, une longue introduction, puis nous allons lire le passage que j'essaierai d'expliquer par la suite, et à la fin, j'aimerais lancer encore un appel assez long. 30 minutes, j'essaye. Je trouve formidable ce verset derrière moi, qui résume très bien le livre des Actes et ce que Dieu a à cœur encore pour nous aujourd'hui. Quand Jésus était sur terre, il a souvent dit « Moi, je ne suis envoyé que pour le peuple d'Israël. » Mais dès qu'il est ressuscité, à chaque moment, il a dit à ses amis « Allez-y dans le monde entier, annoncez cette bonne nouvelle. » Et si on survole le livre des Actes, ceux qui le suivent chaque dimanche le savent. D'abord à Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, une fête où il y avait du monde entier, des Juifs qui revenaient, mais aussi des prosélytes, des craignants Dieu qui étaient là. Mais ça prenait du temps jusqu'à ce que les chrétiens comprennent que même pour les étrangers, les non-juifs, l'évangile était destiné. Il fallait que un chrétien célèbre, Étienne, soit tué, qu'il y ait une grande persécution à Jérusalem pour que les gens enfin partent annoncer l'évangile partout. Ce qu'ils ont fait en Samarie, par exemple. Avant, ils ne parlaient pas aux Samaritains, maintenant ils annonçaient l'Évangile. Quelle révolution! Mais il y avait quand même des chrétiens conservateurs qui voyaient ça pas d'un bon œil. Il fallait que Jean et Pierre partent pour calmer la situation, pour dire « Voilà, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. » Dans la suite, au chapitre 10, nous allons voir même un vrai païen, un Romain, il se convertit. Mais encore, c'était la révolution. Pierre devait se justifier après. Pourquoi il est allé annoncer à un païen, à un romain en plus, l'évangile? Et puis à partir du chapitre 12, vous allez voir, ça bouleverse le monde entier. Une petite équipe part finalement jusqu'à Rome annoncer l'évangile. Tout ça s'est résumé ici et ça continue jusqu'à nos jours que l'évangile soit connu dans le monde entier. Normalement, je n'aime pas m'imaginer ce qui se passe au ciel. Mais pour aujourd'hui, j'ai fait une exception. Au risque de me tromper, mais je me suis fait inspirer un peu par le livre de Job, le premier chapitre, où on voit un peu le conseil de Dieu, ce qui se passe, pour mieux comprendre après la maladie de Job. Et pour mieux comprendre le passage aujourd'hui, accompagnez-moi au conseil de Dieu, imaginaire, bien sûr. Dieu, il dit à ses anges, vous avez vu ce monsieur riche de l'Éthiopie qui est venu adorer jusqu'à Jérusalem mon nom parce qu'il me craigne. De plus, il a investi beaucoup d'argent pour acheter la traduction en grec du livre d'Ésaïe. Il a acheté un rouleau manuscrit et il aimerait tellement connaître comment mieux s'approcher de Dieu aussi dans son pays. Comment faire pour qu'il comprenne l'Évangile? Parce que il n'y a plus de chrétiens à Jérusalem. Il y a la persécution. Ils sont tous partis suite au décès d'Étienne. Les anges, ils réfléchissent. disent, oui, c'est compliqué parce que les apôtres, même s'ils sont des envoyés, mais c'est les seuls qui sont restés à Jérusalem, mais ils n'ont pas encore cette vision large. On le verrait dans les chapitres suivants. Mais il y a un certain Philippe, celui qui a parlé aux Samaritains, celui-là, tu pourrais envoyer pour parler à ce monsieur de l'Éthiopie, ce haut fonctionnaire. Oui, mais comment faire? Parce que notre ami éthiopien, il a déjà quitté Jérusalem et il est en route de retour dans son pays. Ah, pas de problème. Tu lui envoies un ange, tu lui dis « vas-y » et puis tu vas voir. Le même jour, il quitte, même à l'instant. Il part et il fait ce que tu veux. Fais un peu comme pour Marie. Là aussi, tu as envoyé un ange pour annoncer la naissance de Jésus. Envoie un ange, ça sera clair. Ça l'aidera à voir l'importance et ça aiderait aux chrétiens traditionnalistes que c'est vraiment toi qui as envoyé ce Philippe parce qu'il avait un ange. Oui, mais maintenant, comment faire pour qu'ils se retrouvent au même moment? Donc, l'ange lui dit « va ». Et comme je connais Philippe, il va partir. Mais après, comment va-t-il faire pour évangéliser ce monsieur? Les anges, de nouveau, très intelligents, ils grattent leur tête et puis ils disent, mais c'est facile. Comme il a le rouleau d'Ésaïe, il lit déjà maintenant dans sa voiture, et tu vas voir qu'il arrive tout juste sur une prophétie du Messie. Comme ça, Philippe peut tout simplement dire, mais c'est le Messie, c'est Jésus, et expliquer l'Évangile. Tu lui dis, c'est formidable, vous les anges, vos propositions. Mais si vraiment l'Éthiopien, il accepte sur la route de Jérusalem à Gaza, la route déserte, comment faire le baptême? Il faut quand même un flaque d'eau, un petit lac, quelque chose comme ça. Les anges disent, mais il n'y a pas de problème, toi Dieu qui fait pleuvoir sur les bons et les mauvais. Organise une pluie pour qu'il y ait vraiment de l'eau dans la région, que de passage, il puisse avoir ce baptême s'il accepte l'Évangile. Oui, mais il y a encore une dernière question, mes chers anges. Comme je connais cet Éthiopien, il va sûrement inviter notre cher Philippe à l'accompagner chez lui définitivement en Éthiopie et il va se plaire là-bas. Mais moi je veux que d'abord la Philistine, là où les Palestiniens vers Gaza, Asdod, là-bas, soient évangélisés. Et je l'ai prévu pour ça. Comment faire? Ah, les anges, ils disent, mais Dieu, toi tu es tout puissant. Tu pourrais faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu le prends, un peu comme Élie et Hénoc, tu les as enlevés à la mort, tu le prends et tu les descends dans une ville des Philistins. Comme ça, l'Éthiopien, il peut bien l'inviter, il n'y est plus. Dans une seule journée, un peu plusieurs surprises, mais Dieu, il dit, vous les anges, vous m'avez bien conseillé. C'est ça qu'on va faire, allez-y à l'œuvre. Voilà, une journée où Philippe se laisse guider par Dieu. Et il y a plein de surprises, des hasards, des coïncidences surprenantes, même des miracles, des anges qui apparaissent, pour finalement un Éthiopien puisse trouver Jésus. Je vous lis le passage, comment, du point de vue terrestre, ça s'est réalisé. C'est en Actes chapitre 8 à partir de verset 26. Actes 8, 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, Lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. » Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et, assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. » Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Ésaïe. Alors, il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?»« Comment pourrais-je, » répondit-il, « si je n'ai personne pour me l'expliquer ?» Et il invita Philippe à monter et s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture. Comme un mouton qu'on conduit à l'abattoir, comme un agneau muet, devant ceux qui le tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été humilié. Il n'a pas obtenu justice. Qui raconte sa descendance, car sa vie sur terre a été supprimée. » L'Éthiopien demanda à Philippe, « Explique-moi, s'il te plaît, de qui est-il question ? Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et, partant de ses textes, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria, « Voici de l'eau! Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » « Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Philippe se retrouva à Ashdod, d'où il se rendit à Césarée en annonçant la bonne nouvelle dans toutes les localités qu'il traversait. Voilà le résumé de l'histoire de l'Éthiopien qui est venu adorer Jérusalem et sur son chemin de retour a rencontré un chrétien qui lui a annoncé cette bonne nouvelle de Jésus. J'ai choisi comme titre de ce message « Se laisser guider par Dieu », un peu comme Philippe. Ce n'était pas un chrétien extraordinaire, un apôtre. Non, avant, quand ils étaient à Jérusalem, il était un de ceux qui distribuaient de la nourriture aux femmes des étrangers, les veuves grecques, donc étaient un peu négligées. Son collègue Étienne, qui faisait la même chose, a été tué, donc lui, il partait aussi annoncer l'Évangile. Et il avait ce souci que Dieu puisse le guider, le diriger. Et je pense, chaque chrétien, il a ce désir. Même si ce n'est pas toujours si étonnant comme pour Philippe, mais Seigneur, j'aimerais bien aussi que tu m'utilises. Selon mes dons. En tout cas, ça ne serait rien pour moi de courir derrière un char. Avec mon asthme, je ne pourrais pas, mais il a trouvé d'autres tâches pour moi. Mais si nous voulons que Dieu nous guide, la première chose, il faut que nous obéissions à ce qu'il nous dit. Parce que l'ange lui a dit à Philippe, va vers la route déserte Jérusalem à Gaza. Il ne lui a pas dit quoi faire. Qu'est-ce que je veux aller là-bas? Moi qui suis intelligent, oh, je ne sais pas, mais qui me prend pour quelqu'un d'intelligent, j'aurais dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Il fait chaud. Il y a des bandits le long de la route, on ne sait pas ce qui va m'arriver. Souvent, si on est un peu intelligent, on hésite à faire ce que Dieu nous dit. Non? Je vous aide un peu. Quelques mois plus tôt, les disciples s'ennuyaient un peu après la résurrection de Jésus. Ils allaient faire la pêche. Toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Le matin, il y a Jésus qui les appelle. Ah, les gars, vous n'avez rien eu? Ils disent, non, ça ne marche pas aujourd'hui. Jésus, il dit, jetez le filet du côté droit. Si moi j'étais dans la barque, si moi j'étais Pierre, j'aurais dit, Jésus, ce n'est pas la peine. On a essayé toute la nuit, ça ne marche pas. Et si c'est gauche ou droite, peu importe. Pourquoi on va jeter du côté droit? Moi j'essaie du côté gauche, ça va donner la même chose. Pourquoi il dit du côté droit? Souvent, il y a des petites choses quand Dieu il parle. Nous, on ne comprend pas. Mais il faut la foi. Pour les pêcheurs, dans le bateau, gauche ou droite, peu importe, ils ont obéi, ils ont jeté du côté droit. Si Dieu vous dit, déchargez-vous de vos soucis, car il prend soin de vous. Si vous êtes un peu intelligent, vous vous dites, mais c'est bien comme assurance, mais il faut quand même que je fasse un peu des soucis, que je prenne les choses moi-même en main, parce qu'actuellement, ça ne va pas chez moi. Non? Souvent, j'ai l'impression qu'en Dieu, il nous dit quelque chose, notre intelligence nous dit, mais... On voit quelqu'un d'autre. Tu as tellement de chrétiens, pourquoi moi? Mais la réponse de Philippe, verset 27, il se leva immédiatement et se mit en route, pas comme Jonas dans l'autre direction, il est allé. Immédiatement. Et vous qui vivez avec Dieu, si vous lisez la parole de Dieu, si vous êtes en contact avec Dieu, souvent il vous parle, que tout à coup un verset vous interpelle tellement que vous vous dites, ah, ça c'est vraiment pour moi. Ou Dieu utilise un autre moyen, comme ici un ange. Ceux qui me connaissent comme pasteur cacahuète que j'étais avant d'être retraité, chez moi, il a utilisé un rêve. Le matin, quand je me suis réveillé, je savais, il faut que je démissionne comme sécuritas, parce que j'étais sécuritas à mi-temps et à mi-temps pasteur. Donc l'un le jour, l'autre la nuit. Moi, je me disais au réveil, mais mon épouse va mal me prendre ça. Comment on va vivre avec 50% de moins de recettes? Mais non, elle a dit, ah, c'est merveilleux, enfin tu restes à la maison la nuit. Et le Seigneur, parce que c'est ça que j'ai fait, j'ai démissionné pour pouvoir travailler ici à Renan, le Seigneur, il a béni, on n'a jamais eu faim. Et comme petit encouragement dans la suite, des personnes, tout à coup, m'ont donné de grandes sommes, comme ça. 1 000 francs. La sortie d'un culte, Stéphane, c'est pour toi. Je conduisais quelqu'un et au lieu de me donner 20 francs, ça c'est pour le prix d'essence, 1 000 francs. Je ne comprenais plus. Mais ce que j'ai compris là derrière, Dieu, il voulait m'encourager. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et même si mon histoire n'est pas dans la Bible, mais je pense que chacun de vous pourrait raconter des choses comme ça. Si on obéit à la parole de Dieu, il nous bénit par la suite. Donc si nous voulons que Dieu nous guide, écoutons sa voix, mettons en pratique ce que nous avons compris. Même si on ne comprend pas toujours, même s'il y a des incertitudes. Le deuxième point qui m'a beaucoup touché, c'est le fait que Philippe a reconnu la situation préparée par Dieu. Parce qu'une fois qu'il était sur la route, Dieu, par son esprit, lui a dit, tu vois la Mercedes, non, la Rolls-Royce là-devant, cours. Non, c'était un char, donc c'était pas si confortable. Cours derrière cette voiture et tu verras. Il court et il veut dépasser, non pas dépasser, mais il se met à côté. Et commence à marcher, parce qu'en ce temps-là, avec les routes et puis les amortisseurs d'alors, ça ne filait pas vite. Et selon les habitudes d'alors, on lisait à haute voix, comme dans les écoles juives, encore de nos jours, chacun lit à haute voix. Et ce n'est pas le texte devant soi, comme nous on fait le culte personnel le matin, personne n'entend autour de nous ce que nous lisons. Non, à haute voix. Et Philippe, il entendait à côté. Il reconnaît la situation préparée. Voilà un monsieur qui lit dans le rouleau d'Ésaïe, dans le chapitre 53 qui parle de la crucifixion de Jésus. Est-ce qu'il comprend? Monsieur, vous comprenez ce que vous lisez? Quelle situation préparée? Lui dit, mais non, justement, c'est ça mon problème. Est-ce que le prophète parle de lui, de quelqu'un d'autre? Parce que je vois, c'est un passage important. Venez, venez dans ma voiture, expliquez-moi. Et Philippe s'asseye à côté de lui, bien confortablement, chaise en cuir, je m'imagine, un peu, avec beaucoup de mousse en dessous, à cause de ces routes-là. Il reconnaît la situation préparée, comme au football, quelqu'un qui se trouve devant le but adversaire, qui reçoit un ballon sur la tête, et but! S'il n'avait pas reconnu cette situation préparée, il aurait parlé du beau temps d'abord. Monsieur, comment ça va? Mais votre voiture est formidable. Vous venez d'Éthiopie, c'est vers où? L'Éthiopie? Ah, c'est le nord du Soudan actuel, ah bon? Mais vous avez des enfants et puis... Ah bon? Donc, non. Au lieu de parler du beau temps et de la pluie, comme un joueur devant le but qui reçoit le ballon et après il va tripler dans le terrain partout. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que les gens comprennent l'évangile. Donc, il va droit au but. Il dit non, non, non. Ce passage, Ésaïe ne parle pas de lui. C'est du Messie à venir. C'est lui qui viendra régner une fois dans le monde entier. Mais d'abord, il doit souffrir. Et c'est ça qui s'est réalisé il y a quelques mois. Ce Messie est venu, il a fait tant de miracles. On était étonnés de tout ce qu'il a fait. Il a guéri des gens. Il a multiplié la nourriture. Il a fait tous les miracles possibles, mais une fois qu'ils l'ont arrêté, les chrétiens pensaient qu'il allait faire un miracle et descendre de la croix ou je ne sais pas quoi. Mais non, il n'a rien dit. Il s'est laissé frapper, mettre une couronne bizarre sur sa tête. On l'a frappé et il saignait. Au lieu de se justifier parce qu'il n'a rien fait de mal, il est mort. Justement, comme vous avez vu à Jérusalem, le temple, ce n'est pas comme de nos jours les temples. C'est une vraie boucherie. On tuait les animaux pour demander pardon à Dieu pour les offenses. C'est un mouton qui mourait à la place de nous, les êtres humains. Et lui, Jésus, il a pris ça sur lui à notre place pour que nous puissions avoir contact avec ce Dieu Tout-Puissant. Si vous croyez en ce Jésus, vous aurez la vie éternelle. Tous vos péchés seront pardonnés. Vous recevrez le Saint-Esprit et il vous guidera, vous dirigera, vous bénira. C'est la bonne nouvelle, l'évangile que je viens vous annoncer. Et il a sûrement encore beaucoup mieux expliqué que moi. Mais finalement, ce haut fonctionnaire, il a dit, mais celui qui croit en Jésus et qui est baptisé, il sera sauvé. Donc, je vois là devant un petit étang. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ce baptême? Parce que je suis sur la route, je ne peux pas suivre un long cours de baptême comme on le fait aujourd'hui. Comme à Pentecôte, le même jour, on a baptisé les 3000 à Jérusalem. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de me baptiser? Vous n'êtes pas pasteur diplômé, mais en ce temps-là, c'était facile. On faisait, mettait la parole de Dieu en pratique. Et ils se sont arrêtés, sont baptisés, ils l'ont baptisé. Philippe a reconnu la situation bien préparée par Dieu. Et souvent, dans nos vies, on rencontre de telles situations, si on a les yeux ouverts. Des hasards qui ne sont pas des simples hasards. Donc, j'illustre de nouveau par mon passé ici à Renan. J'étais pasteur à mi-temps à Apple, au pied du Jura. Et au lieu de garder les immeubles la nuit, je venais à Renan annoncer l'évangile à ma manière. J'essayais d'encourager les églises. Et chose étonnante, comme le Seigneur m'a envoyé, toutes les églises m'ont invité. C'était plus question de dénomination par-ci, dénomination par-là. C'était un envoyé de Dieu, un simple chrétien. J'étais invité chez les frères à côté de la copée pour annoncer la parole de Dieu. À la petite chapelle là devant la gare, à annoncer la parole de Dieu. À l'armée du salut, on a organisé un cours live dans la salle pour annoncer la parole de Dieu. Ici, à l'action biblique, on me reçoit jusqu'à ce jour. On a, par exemple, fait une action du calendrier dans toutes les boîtes à lettres à Renan, et moi j'avais le privilège après d'apporter ces calendriers dans toutes sortes de langues à ces personnes. Le Seigneur a ouvert les portes. Je trouve ça extraordinaire. Comme le Seigneur, il a préparé les situations. Il envoie, il prépare. Et de nouveau, Philippe, ce n'était pas un apôtre, c'était un chrétien ordinaire. Moi, je ne suis pas quelqu'un de spécial, un évangéliste qui pourrait dire voilà tout le nombre des personnes qui ont accepté le Seigneur grâce à moi. Non, je suis un simple chrétien, comme toi et moi. Reconnaissant les possibilités préparées par le Seigneur, il nous guide. Il prépare les situations. On ne voit pas toujours les discussions avec les anges au ciel, comment il arrange cela pour que justement la personne lise ce passage en Isaïe qui parle du Messie. Et le troisième point qui m'a touché là-dedans, le temps est limité. Dans une seule journée, c'était fini cette aventure. Il y va, il rencontre cet Éthiopien, lui explique l'évangile et le baptise, et il est enlevé, il ne le voit plus. Miracle extraordinaire, mais l'Éthiopien avait maintenant le rouleau d'Ésaïe pour bien comprendre tous les passages là-dedans qui parlent déjà du Messie. Il a entendu pendant 30 minutes à peu près, un peu comme vous maintenant ce matin, l'évangile, et ça devait suffire pour survivre, pour adorer Dieu dans son pays. Tout a une fin. La même chose chez moi. Donc je ne veux pas forcément parler de la mort, que nous on est tous passagères ici-bas, mais même moi qui suis parti en retraite, encore hier quelqu'un de renom m'a appelé. Stéphane, je viendrai te voir. On m'a dit qu'au canton de Zurich, les voitures sont moins chères. Je peux loger chez toi. Vous voyez, vous êtes sorte d'amis. Mais c'est des amis. Oh, c'était chez lui, je l'ai aidé à déménager. J'ai fait beaucoup de choses, mais voilà. Mais je ne suis plus à Renan. Il y a d'autres maintenant qui y sont. Tout a ses limites ici-bas. Donc laissons-nous guider par Dieu. Obéissons à sa parole, reconnaissons les situations préparées et laissons-nous avertir. Tout a sa fin. Ne reportons pas à demain. Je pourrais dire amen maintenant, mais je vous ai dit, il y aura encore un petit supplément. Un grand supplément. Parce que quand j'ai lu ce passage, je me disais, mais quand même, ce n'est pas par hasard que ça tombe sur moi. L'évangélisation d'un étranger que moi j'ai tellement à cœur. Dans mon village, il n'y a presque pas d'étrangers. Mais ici, à Renan, c'est la fête. Dans le passé, quelques-uns ici présents, il fallait se préparer longuement pour aller au loin, annoncer à ceux qui n'ont pas la possibilité de connaître la parole de Dieu, que Jésus est vivant, que Jésus est leur sauveur. Ils ont tout fait pour faire ce long voyage. En Asie, en Afrique. Et il y a un siècle, il y a beaucoup qui sont morts à cause de la malaria, quand on n'avait pas encore les médicaments. Mais vous avez compris que le temps a changé. Avant, c'était que les petits Suisses qui étaient à Renan et en Suisse. Mais il faut seulement regarder tous les drapeaux dans ces jours qui sont autour, sur les balcons, devant les fenêtres. La Suisse, c'est le monde. D'abord, c'est les Italiens qui sont venus travailler les travaux que nous, on n'aimait pas. Après, les Portugais qui savent bien travailler aussi. Après, toute la liste des pays de l'ancien Yougoslavie, maintenant de l'Iran, de l'Afghanistan, de l'Éthiopie. Du monde entier, ça vient ici. Et moi, j'ai souvent l'impression que nous, on ressemble un peu aux apôtres d'alors. Nous, on sait très bien comment faire, et puis, on défend bien la parole de Dieu. Donc, dans mon village, où je me suis joint à l'église évangélique, ils viennent de vivre un schisme, une séparation. Les jeunes sont partis, les vieux sont encore là, et comme je suis vieux, je me suis joint aux vieux. Sujet principal, le pasteur prêchait pour les jeunes, ça ne disait rien aux vieux. L'adoration, c'était pour les jeunes, ça ne disait rien aux vieux. Mais au lieu d'annoncer la parole de Dieu, on se bat pour la parole, pour les futilités. Au lieu d'adorer Dieu dans la louange, on dit « musique est ci, musique est ça ». Et après, au lieu de prêcher pendant toute la semaine pour le pasteur, on dit « le pasteur est nul ». Non, ça vraiment, ça me dit rien. Mais est-ce qu'on est vraiment spirituel? Quand on adore Dieu, est-ce qu'on adore le haut? Est-ce qu'on se bat pour le style de musique? Et si dans notre village, il y avait un pasteur parfait, mais nous, les chrétiens, ne prierait pas pour ces messages. Mais justement, parce que ça ne touche pas, on se commence à prier, Seigneur, utilise-le. Et même si c'est une petite phrase seulement qui me touche, que je puisse retenir cette phrase. Parle, Seigneur, Et on commence à prier. Et puis je me disais, voilà, comme je suis chez les vieux, en tant que vieux, ça c'est bien. Mais pendant le Covid, on avait ces films-là, on n'avait pas de vraie musique. La musique était réchauffée là, de l'Internet. Et vous savez ce que les vieux me disent ? Ah, mais cette musique. Ah, avant, quand on avait les beaux vieux cantiques, c'était autrement. Mais maintenant, c'est toujours les mêmes lamentations. Mais la vision de Dieu, que les gens de notre village soient sauvés, donc ils m'ont nommé tout de suite responsable de l'évangélisation. Donc, il y a un mois, on a ouvert notre local comme un restaurant, café, tous les mardis matins. C'est ouvert, on a une petite équipe. La semaine passée, j'ai distribué une centaine de flyers dans les boîtes aux lettres pour inviter les gens. Bien sûr, pas les flyers comme ça, parce que partout, c'est marqué « pas de pub, pas de pub, pas de pub ». Donc, il faut s'adapter. J'ai écrit une petite lettre, « Chers voisins, etc. On vous invite chaleureusement à notre café. » On a mis ça sous enveloppe, une lettre dedans. Et puis, mardi, on va voir. C'est des gens qui viennent. On essaie, à notre manière, tout faire pour annoncer l'Évangile. Et vous ici, j'aimerais vraiment vous encourager à faire de même, à vous laisser guider par Dieu. Vous êtes en plein milieu où les gens ont souvent risqué leur vie pour traverser la mer Méditerranée, pour venir ici. C'est tellement international. Vous ne pensez pas que Dieu puisse vous ouvrir des portes comme il m'a ouvert à moi? Et maintenant, je parle d'autres portes. Je connaissais les 6 mosquées de Renan de l'intérieur. J'ai été souvent discuter avec eux, ou plutôt, comme Philippe, poser des questions. Parce que si on discute d'une certaine manière, ça fait un mur, mais qu'est-ce que le Coran dit du prophète Issa? Voilà, donc j'ai appris un peu, il ne faut pas parler de Jésus, prophète Issa. Est-ce qu'il y a beaucoup dans le Coran qui soient sans péché? Ah ça, je ne sais pas, il faut que je demande l'imam. Ah oui, c'est Issa. Il n'y a aucun péché qui est raconté de lui. Et le Coran, il dit vraiment que Issa va revenir. Oh oui, c'est ça. Mais organisez un cours, comment évangéliser les musulmans? Et vous aurez tant de possibilités. Les autres que j'avais beaucoup à cœur, c'était mes amis témoins de Jéhovah. Parce que ils m'ont dit... Vous, les évangéliques, vous nous recevez très, très mal. J'ai dit, ah non, non, non. Moi, je viens partout, vous m'invitez. Je suis allé dans le grand centre à Renan, toute la ville de Lausanne, etc. Viens. Et j'ai suivi une soirée de formation, comment faire du porte-à-porte. J'avais mes amis témoins de Jéhovah à qui j'ai toujours posé mes questions. Vous dites... que Jésus va revenir et régner pendant le règne de 1000 ans. Et pourtant, la Bible dit que Jéhovah règne pour toujours. Comment c'est possible? Jésus règne ou Jéhovah qui règne? Ils ne m'ont pas encore répondu à ma question. Vous avez le champ missionnaire devant vous. Ce n'est plus comme dans le passé où c'était les spécialistes qui partaient au loin. Le monde entier est venu ici à Renan. Mais commencez un groupe parmi les Turcs, un groupe biblique. Ils ont 2 mosquées ici à Renan. Turquie du Nord, les 2 familles qui ont ces 2 mosquées. Mais ne dites pas « la terre est dure, le terrain est dur ». Si quelqu'un pourrait le dire, c'est Philippe, parce que son collègue Étienne venait d'être lapidé. Non, pas comme ça, mais c'était fini. Ils devaient tous quitter Jérusalem. Ça, c'était dur, mais si aujourd'hui on fait une erreur et on dit à un musulman, Jésus est fils de Dieu, donc il ne va plus nous saluer parce qu'il comprend mal, mais on ne va pas nous tuer. Mais dans leur pays, là, ça serait autrement. Donc, Mon message à la fin, laissez-vous guider par Dieu. Ayez les yeux ouverts pour le royaume de Dieu ici à Renan et les alentours. Il a donné à chacun au moins un talent. Il y a d'autres qui ont même deux, il y a d'autres qui ont cinq talents qu'ils sont surdoués. Mais laissez-vous guider. Peut-être il ne vous enverrait pas un ange cet après-midi, mais une voisine qui vous invite à boire un thé. Et pendant que vous buvez tranquillement votre thé, vous lui posez la question, mais tu crois aussi en Dieu? Ah oui, moi je suis musulmane convaincue. Et les musulmans aiment tellement parler de Dieu, déjà vous êtes au sujet. Le terrain n'est pas dur. Il faut savoir annoncer la bonne nouvelle, se laisser guider. Le pasteur Cacahuète n'est plus à Renan, mais vous êtes nombreux ici, êtes des flambeaux, des lumières de Jésus. Laissez-vous guider par Dieu. Écoutez sa parole et obéissez. Reconnaissez les situations préparées par Dieu et pensez-y, le temps est court. J'aimerais prier. Seigneur Jésus, je te remercie beaucoup. De ce que toi tu as à cœur, que ton évangile soit connu dans le monde entier. En ce temps-là, c'était le combat, si vraiment les Samaritains pouvaient l'accepter, plus tard, si de vrais païens pouvaient l'accepter. Et de nos jours, c'est tellement clair, l'évangile est pour tout le monde. De nos jours, c'est tellement facile, le monde entier, à nos portes, dans nos immeubles. Seigneur, montre à chacun de nous, selon les possibilités que tu nous donnes, pas comme un immense fardeau, comme un stress que tu mets sur nous, mais comme un privilège de pouvoir annoncer ta bonne nouvelle, que le Dieu créateur du monde entier s'intéresse à chacun de nos voisins. Il aimerait le rencontrer. Il aimerait qu'il ait un contact personnel avec lui. Par la prière, par son esprit, utilise-nous, guide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.